Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Lionel Camille, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Victoria Charlton, star de YouTube. Victoria est désormais une auteure, elle a sorti un livre qui s'appelle « Gardez l'œil ouvert », un livre sur les disparitions. Et elle a étudié notamment une affaire, celle de Rebecca Coriam, une affaire que j'ai aussi étudiée dans mon livre « Disparu en mer », parce qu'en fait, cette jeune femme a disparu à bord d'un paquebot. Donc, c'est marrant parce que garder l'œil ouvert, disparu en mer, ça rime. Donc, je lui ai proposé qu'on fasse une petite vidéo ensemble pour parler de cette affaire. Donc, je vous explique comment ça va se passer. Donc, je vais commencer par présenter les faits. Je vais céder ensuite ma place à Victoria qui va présenter des théories. Et je reviendrai à la fin pour apporter quelques analyses supplémentaires. Vous êtes prêts ? Donc c'est parti pour la disparition mystérieuse de Rebecca Coriam.
Vous écoutez le podcast Over and Out.
Tout démarre le lundi 21 mars 2011, dans le port de Los Angeles, en Californie. Ce jour-là, le Disney Wonder, un élégant paquebot, largue les amarres. Le bateau doit faire une croisière de 7 jours le long de la Riviera mexicaine sur la côte ouest du Mexique. Des escales sont prévues à Cabo San Lucas et à Puerto Vallarta. Pendant une semaine, 2500 passagers internationaux vont profiter du voyage. Et 1000 membres d'équipage vont s'assurer qu'ils passent un moment inoubliable. Rebecca Coriam est l'une de ces membres d'équipage. Cette Britannique de 24 ans travaille dans le club enfant du Disney Wonder. Née en mars 1987 à Chester, en Angleterre, Rebecca est une jeune femme très sportive et un peu casse-cou. Elle pratique la natation, le cyclisme et la course à pied. Elle a notamment fait le triathlon de Londres. Adorant les enfants et en quête d'aventure, Rebecca travaille depuis juin 2010 pour la compagnie de croisière Disney Cruise Line, une filiale de Walt Disney Company. Elle est affectée en particulier sur le Disney Wonder qui est basé à LA. Immatriculée aux Bahamas pour des raisons fiscales et long de 294 mètres, le Disney Wonder est doté de tous les équipements possibles et imaginables. C'est le paquebot idéal pour une croisière en famille. Son petit plus et son ambiance féerique. À bord du navire, tout rappelle l'univers magique de Disney. Donc le lundi 21 mars 2011 après-midi, le Disney Wonder atteint la pleine mer et prend la direction du sud. La côte de Californie n'est plus visible à l'horizon. Et comme ses collègues, qu'on appelle chez Disney les cast members, Rebecca est très occupée. Elle travaille comme animatrice au club enfant. Ce lundi, tout se passe normalement, a priori, pour Rebecca. Dans la journée, elle envoie un message à sa mère sur Facebook pour l'informer qu'elle l'appellera le lendemain, donc le mardi 22. Le lundi soir, pendant que le Disney Wonder navigue le long des côtes mexicaines, Rebecca rejoint à la fin de son service des collègues au bar de l'équipage où elle boit quelques bières et se relaxe jusqu'à 2h du matin. Donc à partir de là, le reste de la nuit passe et on est maintenant le mardi 22 mars 2011 à 9h du matin. Et à 9h du matin, Rebecca ne se présente pas à son poste de travail. C'était pourtant l'horaire prévu pour démarrer sa nouvelle journée de travail. Et ce comportement ne lui ressemble pas, parce qu'elle est très ponctuelle d'habitude. Pensant qu'elle a peut-être eu une panne d'oreiller, son superviseur envoie quelqu'un la chercher dans sa cabine. Seulement, elle se révèle vide. Par la suite, Rebecca est appelée à plusieurs reprises par le système de sonorisation publique du navire. On fait plusieurs appels. En vain, Rebecca ne reparaît toujours pas. Donc là, une partie de l'équipage commence à passer le Disney Wonder au peigne fin à la recherche de Rebecca. Seulement, cette dernière demeure introuvable. Donc, enquête d'indices quant à la localisation de l'employé, les autorités de bord demandent à ce que soient vérifiées toutes les images de vidéosurveillance enregistrées sur le paquebot durant la nuit. L'examen des vidéos porte ses fruits. On découvre que Rebecca a été filmée le mardi 22 mars 2011 à 5h45 du matin dans un espace du navire réservé aux employés. Sur les images de qualité médiocre, on voit que la jeune femme ne porte plus sa tenue jaune d'animatrice. Vêtue d'un pantalon sombre trop grand pour elle et d'une chemise bleu clair, elle passe un appel avec un téléphone interne du bateau. Rebecca semble de toute évidence en désarroi. On a vraiment l'impression que ça va pas. Un autre membre d'équipage qui marche dans le couloir lui demande si tout va bien. « Oui, ça va », lui répond-elle. Rebecca raccroche le combiné du téléphone et s'éloigne, les mains dans les poches arrière de son pantalon. Par la suite, elle arrange ses cheveux blonds et sort du champ des caméras. Ces images granuleuses sont les dernières connues de la jeune femme. Informé de la disparition d'un membre d'équipage, le capitaine du Disney Wonder craint qu'elle ne soit passée par-dessus bord. Il alerte sans tarder l'US Coast Guard, les gardes-côtes américains, qui travaillent conjointement avec la marine mexicaine pour localiser la disparue. Ils organisent donc une opération de search and rescue, recherche et de sauvetage. Mais la situation s'avère complexe, parce que le paquebot vogue dans les eaux internationales et on ignore où chercher Rebecca. C'est ça le problème. Parce que si elle est tombée à la mer, l'accident s'est obligatoirement produit entre 5h45 et 9h du matin. La fourchette horaire est large et la zone à fouiller par les secours se révèle immense. Donc à plus de 9000 km en Angleterre, Anne-Maria Coriam, elle s'étonne ce jour-là de ne pas recevoir de nouvelles de sa fille. Parce que Bex, comme on la surnomme, n'a pas répondu à son dernier message sur Facebook et ne l'a pas non plus rappelé, contrairement à sa promesse de la veille. Rebecca avait dit à sa mère qu'elle l'appellerait le mardi. Est-ce l'instinct maternel? Anne-Maria a l'intuition que quelque chose est arrivé à sa fille et la nuit venue, elle et son mari, Mike, peinent à trouver le sommeil. Ils ont du mal à dormir. Lorsque le jour revient en Angleterre, le mardi 22 mars 2011, les Coriam reçoivent un appel qui craignait. Un représentant de Disney Cruise Line les informe par téléphone que leur fille Rebecca est portée disparue au large des côtes du Mexique. Donc pour Mike et Anne-Maria Coriam, c'est le monde qui s'écroule. Pendant ce temps-là, les secours continuent de fouiller la mer au large du Mexique. Seulement, ils ne trouvent rien. Dans la journée, les passagers du paquebot sont avertis qu'un membre d'équipage a disparu. Un avis de recherche est diffusé à bord du navire et les vacanciers sont invités à la vigilance. Donc les jours suivants, l'opération de recherche et de sauvetage se poursuit dans les eaux mexicaines, mais les recherches vont demeurer infructueuses. Donc on est maintenant le vendredi 25 mars 2011 et le Disney Wonder revient au port de Los Angeles de manière anticipée à cause du drame, parce que la croisière devait durer normalement une semaine. Peu après que tous les passagers aient débarqué du navire, un policier bahaméen nommé Paul Roll monte à bord afin d'enquêter sur la disparition de Rebecca. En effet, étant donné que le Wonder navigue sous le pavillon des Bahamas, c'est la police de ce pays anglophone des Caraïbes qui a juridiction. C'est quand même un pays qui est à 4049 km de Los Angeles, donc c'est assez loin. Donc sur le Wonder, l'officier de police bahaméenne mène des investigations. Cependant, il ne trouve aucun indice suggérant un acte criminel. Le même jour, Mike et Anne-Maria Coriam arrivent aux États-Unis après un long voyage depuis la Grande-Bretagne. Ils sont reçus par le capitaine du Disney Wonder en personne qui leur présente ses condoléances et leur fait part de sa conviction. Pour lui, Rebecca a vraisemblablement été emportée par-dessus bord alors qu'elle se trouvait près de la piscine réservée au personnel située à la pointe avant du paquebot. épuisé physiquement et nerveusement à cause du décalage horaire. Là, les Coriam, ils rencontrent ensuite les représentants de la compagnie, Disney Cruise Line, mais bon, ils ne posent pas tellement de questions parce qu'ils sont complètement anéantis. Hein. Ils sont quand même invités à aller dans la cabine de leur fille pour récupérer ses effets personnels, notamment une paire de tongs blanches et bariolées de la marque Avenias. Mike et Anne-Maria se voient expliquer que ces tongs ont été trouvés à proximité du mur en acier de 2 mètres de hauteur entourant la piscine du personnel. Cette découverte conforte l'hypothèse selon laquelle Rebecca aurait été projetée par-dessus bord par une énorme vague. Un problème qui se pose néanmoins, aucun élément ne vient corroborer cette théorie. Apparemment, le Disney Wonder n'a été frappé par aucune vague scélérate, c'est-à-dire une grosse vague, cette nuit-là. Je laisse maintenant Victoria continuer et nous livrer son analyse sur cette affaire.
Alors, merci Lionel de nous avoir expliqué les faits. De mon côté, j'ai déjà parlé de cette affaire dans mon livre « Gardez l'œil ouvert ». Je pensais pas faire de vidéo sur ce cas, ni aucune histoire dans mon livre, en tout cas pas pour l'instant. Mais cette histoire est tellement intéressante et ça me fait plaisir d'en parler avec Lionel. Donc, ceux qui ont lu mon livre vont être au courant de cette affaire, mais c'est bien d'en reparler. Et là, vous allez avoir des images avec l'histoire. Donc, pour reprendre où avait terminé Lionel, en fait, les parents se retrouvent avec une paire de sandales dans les mains pour expliquer la disparition de leur fille. Pourtant, en regardant la paire de sandales, ils sont assez confus pour plein de raisons. Premièrement, c'était des sandales assez « girly ». Si je peux me permettre, c'était pas du tout le style de leur fille qui aimait les choses un petit peu plus masculines. Donc jamais elle ne s'achèterait ou porterait ce genre de chaussures. Mais en plus de ça, ça ils l'ont pas vu dès le départ, mais en plus de ça, la paire de sandales n'était même pas la bonne taille. Au départ, les parents ils ont dit « Ok, ces sandales-là sont beaucoup trop petites pour Rebecca. » Et par la suite, on a découvert que les sandales étaient en fait trop grandes pour Rebecca. Et même qu'en 2016, on a finalement découvert que les sandales n'étaient pas à Rebecca parce qu'elles étaient identifiées au nom d'un autre employé et une autre chambre. Donc, elles n'étaient pas du tout à Rebecca. Fait que je sais pas pourquoi on a menti pour dire que les sandales appartenaient à Rebecca. Et en fait, si on revient à la théorie que Rebecca se soit fait emporter par une grosse vague, c'était la théorie que Disney ne cessait de répéter. En fait, si on regarde la météo du 22 mars, du matin du 22 mars, on peut très vite constater qu'il faisait super beau. C'était la température idéale pour naviguer en haute mer. Donc c'était pas une tempête, il y a rien qui aurait pu provoquer une immense vague si grosse qu'elle aurait emporté une jeune femme. Et au moment de sa disparition, Rebecca se trouvait à une piscine. Si on pense à l'hypothèse de Disney, la vague aurait dû faire plus de 2 mètres de hauteur parce que la piscine est entourée de grands murs de plus de 2 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment énorme, une vague qui mesure plus de 2 mètres. Donc pour que Disney parle de cette vague en question, on se demande, mais là, ils doivent avoir des preuves. C'est sûr qu'ils ne seraient pas arrivés à une telle conclusion sans preuves. Enfin, en regardant toutes les caméras de surveillance de ce matin-là, on ne voit Rebecca à nulle part, ce qui est assez anormal. T'sais, on penserait qu'on l'aurait vue justement perdre de pied, tomber dans l'eau, ou qu'une grande vague l'aurait emportée, mais à aucun moment on voit Rebecca sur les caméras de surveillance. Le seul moment, en fait, où on voit Rebecca sur le paquebot, c'est sur les images de la caméra de surveillance de la salle d'employés, l'image que Lionel nous a montrée. Les parents de Rebecca rencontrent le responsable de l'enquête, Paul Roll, l'officier de la police royale des Bahamas, en espérant obtenir plus de réponses à leurs questionnements. Mais là, en fait, ça devient beaucoup plus décourageant pour eux parce qu'on se rend compte que au moment de la disparition de Rebecca, il y avait plus de 2500 touristes à bord du bateau et on a seulement interrogé 6 employés. On n'a même pas interrogé l'entièreté des employés. Ça aurait été déjà une bonne étape, quelques touristes, mais on a interrogé juste 6 personnes sur un bateau de 2700 personnes. C'est incroyable. Donc, qui nous dit que Rebecca n'a pas été victime d'un enlèvement, d'un homicide? Ça serait très possible parce qu'on ne sait pas. On n'a même pas visité les chambres. On n'a pas interrogé qui que ce soit. Et je comprends en fait que c'est assez difficile d'interroger des passagers du bateau puisque, bon, il y en a plusieurs qui parlent pas la langue, les gens sont en vacances, si tu veux pas trop les embêter avec ça. Et Disney a vraiment son image à garder. Et là, d'interroger 6 personnes, c'est même pas le strict minimum. C'est frustrant, là, c'est incroyable. Une autre erreur monumentale lors de l'enquête de la disparition de Rebecca, ce fut la fouille des eaux. En fait, on a dit oui, on a fouillé les eaux pendant plusieurs heures à la recherche de Rebecca. En fait, on s'est rendu compte qu'au moment où ils ont fouillé les eaux, en fait, on n'a même pas donné les bonnes coordonnées à la garde côtière américaine. Donc oui, ils ont fouillé les eaux, mais même pas au bon endroit. C'est une erreur tellement grave, surtout qu'on sait à quel point, lors d'une disparition, les premières heures sont cruciales. Mais on a perdu ce temps-là parce que, tu sais, mettons qu'ils ont fouillé, c'est con, là, mais mettons qu'ils ont fouillé à gauche et Rebecca est à droite et personne fouillait là, mais on aurait peut-être pu la sauver si c'est ça qui est arrivé, qu'elle soit tombée à l'eau. Ne pouvant rien faire pour améliorer la situation, les parents de Rebecca ont dû retourner en Angleterre, mais il y avait encore autant de questions non répondues, autant d'interrogations, et sans savoir qu'est-ce qui est réellement arrivé, c'est impossible pour eux de faire le deuil, on le sait, c'est extrêmement difficile. Fait que là, ça va pas du tout bien. Ils ont l'impression qu'ils sont seuls au monde, et en plus, ils ont été surpris qu'on leur permettent de ramener les effets personnels de Rebecca à la maison. Bon, mais il y a la paire de sandales dont vous avez parlé, il y a son passeport, ils ont même trouvé une paire de shorts déchirés, ce qui est quand même louche, là, t'sais, une fille disparue, puis on retrouve sa paire de shorts déchirés dans sa chambre. Et la police a dit « oui, vous pouvez les ramener à la maison », et les parents étaient comme « mais vous en avez pas besoin pour peut-être prélever l'ADN, je sais pas, c'est des preuves, là, t'sais, gardez-les, c'est important », puis la police a pas voulu les garder, ils ont dit qu'ils en avaient pas besoin. Encore là, comme je dis, c'est des preuves assez importantes, mais la police les a pas gardées, fait qu'on voit à quel point cette enquête a été bâclée. Pour tenter d'obtenir de l'aide, la famille de Rebecca crée le site rebeccacoriam.com, puisque en fait l'enquête stagne et ils ont comme l'impression que la police est déjà passée à autre chose. Bon, Rebecca s'est fait apporter par une vague, ça finit là, on a terminé l'enquête, alors que c'est loin d'être le cas. Finalement, les parents ont engagé un détective privé, Roy Ram, ce qui est bien parce que les détectives privés n'ont pas les mêmes lois que des policiers, parfois ils vont utiliser des techniques douteuses pour obtenir à leur fin, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est savoir la vérité. Et que ce fameux Roy Ram a obtenu beaucoup d'informations assez importantes, assez intéressantes, qui pourraient nous laisser croire que Disney aurait menti sur la disparition de Rebecca. En fait, il a obtenu l'enregistrement vidéo original lorsqu'on voit Rebecca parler au téléphone dans la salle d'employés. On avait donné seulement un extrait à la famille, et bien lui a obtenu l'original et on a remarqué que Disney avait comme effacé l'emplacement. En fait, depuis le départ, ils disent que Rebecca était dans la salle d'employés sur le pont numéro 5. Mais au moment de visionner l'enregistrement, on a découvert que c'était faux. Rebecca était dans la salle d'employés sur le pont numéro 1, ce qui est quand même éloigné du pont numéro 5. Donc je sais pas pourquoi ils ont menti sur ce fait-là. Est-ce que c'est important? Pourquoi ils ont menti sur ça? Pourquoi ils ont caché cette information? En fait, les sandales ont été retrouvées à la piscine du pont numéro 5. Fait que je pense qu'ils ont juste manipulé cet enregistrement pour rendre plus plausible la thèse de l'accident. Fait qu'en disant « Ah, elle était dans la salle d'employé numéro 5, on a retrouvé les sandales là. » C'est clairement, Rebecca s'est fait emporter par une vague, alors que peut-être qu'elle n'y a même pas mis les pieds à cet endroit ce matin-là. Le détective privé a aussi interrogé tous les employés qui travaillaient sur le bateau de croisière et définitivement on peut voir que quelque chose a caché. Apparemment, les directeurs du bateau de croisière auraient ordonné à leurs employés de répondre « je ne sais pas » quand quelqu'un leur posait des questions sur la disparition de Rebecca. Même s'ils en savaient plus, on leur ordonnait de répondre « ah, je sais rien, je sais pas ». Il y a même un employé que dit au détective privé, et je cite, « Tout le monde sait ce qui est arrivé à Rebecca, mais on nous a demandé de ne rien dire. » Il y a un autre employé qui dit que la compagnie de Disney enregistre tout ce qui se passe sur les bateaux de croisière. En fait, les employés sont très surveillés, mais même les clients, les touristes, il y a énormément de caméras de surveillance justement pour assurer la sécurité. Fait qu'il y en a dans les salles d'employés, il y en a sur le pont, il y en a près des piscines. Et Ils enregistrent tous les appels personnels que les employés font. Fait que si tu es un employé, tu appelles d'autres amis, d'autres employés, si tu appelles tes parents, tout ça est enregistré. Fait que c'est sûr qu'ils ont l'enregistrement de l'appel que fait Rebecca à 5h du matin. Donc pourquoi ils ne l'ont pas donné à la famille? Elle semblait être en détresse si on savait ce qu'elle avait dit. Ça nous en dirait peut-être un petit peu plus sur sa disparition. En 2011, un journaliste du nom de John Ronson réussit à obtenir les enregistrements de la caméra de surveillance du pont 5 ce matin-là, vers 5h du matin. Et ça ne fait que confirmer les faits, ça a confirmé tout ce qu'on pensait depuis le début. À aucun moment, il y a une vague énorme de 2 mètres sur le pont 5, mais surtout, à aucun moment, on y voit Rebecca. Fait que là, c'est clair que Rebecca n'a pas été victime d'un accident. Et moi, suivant la disparition de Rebecca, il y a eu plusieurs affaires étranges qui se sont passées. En fait, les parents de Rebecca ont découvert que quelqu'un avait changé le mot de passe du compte Facebook de Rebecca. Je pense qu'il y avait accès au Facebook et ensuite les mots de passe ont été changés. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à cacher dans ces conversations?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Conversation privée avec Rebecca et pourquoi cette personne avait accès au compte Facebook de Rebecca, ça doit être un très bon ami. Mais aussi, quelqu'un s'est servi de la carte de crédit de Rebecca, ce qui nous amène à nous poser beaucoup de questions. Qui se sert de la carte de crédit de Rebecca? Comment elle a mis la main sur cette carte de crédit-là? Sûrement qu'encore une fois, cette personne était très proche de Rebecca, parce qu'après la disparition de Rebecca, ses parents ont tout pris ses effets personnels. Donc, qui aurait volé sa carte de crédit avant ça? Bref, ça c'est louche. Et si on suppose que c'est Rebecca elle-même en personne qui a décidé de changer son mot de passe et d'utiliser sa propre carte de crédit, ça voudrait dire qu'elle est encore en vie. Donc, pourquoi elle se cache? Pourquoi elle ne veut pas parler à sa famille? Fait que ça amène plusieurs questions. C'est assez fou, là, tout ce mystère. Les parents ont aussi reçu le témoignage d'une femme qui dit qu'elle est sûre à 85% d'avoir vu Rebecca à Venise, en Italie. Elle était accompagnée d'un homme très beau, apparemment. Donc, OK, supposons que Rebecca a refait sa vie à Venise. Il y a plein de trucs bizarres. Par exemple, comment elle aurait pu s'y rendre sans son passeport, parce que c'est ses parents qui ont son passeport. Bon. Peut-être qu'elle a pu obtenir un nouveau passeport, mais aussi comment elle a pu débarquer du bateau sans qu'on la remarque. Je suis jamais allée sur un bateau de croisière, mais j'imagine qu'un gros filtre, tu sais, de personnes qui entrent et qui sortent, elle demande une pièce d'identité et tout. Et surtout, pourquoi elle ne contacte pas sa famille si elle est encore en vie. En 2013, les Coriam ont poursuivi Disney à cause des mensonges et incohérences dans l'enquête. Ils ont réglé le tout à l'amiable en 2015 et Disney a remis une grosse somme d'argent au Coriam. Le montant d'argent n'a jamais été dévoilé. En 2017, une ancienne collègue de Rebecca, Melissa, qui a contacté les médias et qui a donné beaucoup d'informations que les parents de Rebecca ignoraient complètement sur leur fille. Apparemment que Rebecca aurait eu des relations avec une autre employée du nom de Tracy. D'ailleurs, cette fille, Melissa, décrit Rebecca comme étant une fille vraiment de party. Elle aimait faire la fête et prendre beaucoup de drogue. C'est assez choquant, en fait, surtout pour la famille de Rebecca. Et apparemment que la nuit du 21 mars, il y a Tracy, Rebecca et un ami de Tracy, Devon, il aurait fait un trip à trois, on dit au Québec, un trio, là, je sais pas, une relation les trois ensemble. Et même qu'apparemment, c'est Rebecca qui aurait initié cette relation, cette expérience. Après les relations, vers 5 heures du matin, Rebecca aurait pris sa douche et elle se serait habillée en vitesse et elle aurait dit à Tracy qu'elle avait besoin d'aller prendre de l'air, d'aller marcher un petit peu. Et elle a dit à Tracy, genre, verrouille pas la porte, je vais revenir. Mais elle n'est jamais revenue. Donc, c'était comme un gros triangle amoureux, en fait. Rebecca était folle amoureuse de Tracy et je pense que Tracy commençait à ressentir des choses pour Devon. Fait que ça troublait beaucoup Rebecca, qui était très jalouse. Ça la chagrinait de voir la fille qu'elle aimait amoureuse d'un autre homme. Et ça faisait 2 semaines là, que Rebecca était très déprimée à cause de ça. Donc, Tracy, elle est sûre que le matin du 22 mars, en fait, Rebecca se serait suicidée en se jetant par-dessus bord. Ça, c'est sa théorie. En fait, c'était pas la première fois que Rebecca parlait de suicide. La nuit avant sa disparition, Rebecca est allée voir Tracy en pleurant. Elle avait la difficulté à respirer. Elle disait qu'elle avait essayé de se jeter par-dessus bord et elle n'avait pas été capable, elle n'avait pas eu le courage. Donc, elle avait déjà fait une tentative de suicide avant. Ces faits sont vraiment étonnants pour la famille de Rebecca qui ne croit pas que leur fille était suicidaire ou en dépression. En fait, ils ont parlé à Rebecca, ils se parlaient presque à chaque jour et jamais ils ont trouvé que leur fille était déprimée. Donc ils pensent que c'est faux, mais bon, tu sais, la maladie mentale, c'est pas toujours facile. Quelqu'un peut sembler aller super bien alors qu'il ne va pas bien. Donc ça se peut que ses parents n'ont pas su entendre au téléphone que Rebecca allait pas bien. Mais ce qui est possible aussi, c'est que Tracy invente tout ça de A à Z. Ça se peut que ça soit faux parce qu'il y a personne qui pourrait contredire ces faits parce que Rebecca n'est plus là et les deux seuls à être au courant de sa maladie mentale, c'est Rebecca et Tracy. Donc, ça se peut qu'elle invente tout ça de A à Z justement et que cette histoire est beaucoup plus sombre que ce qu'on croit. Il y a aussi des amis de Rebecca qui travaillaient pas avec elle sur le bateau. C'est des amis en Angleterre qui, la dernière fois qu'ils avaient parlé avec Rebecca, Rebecca s'était confiée à elle. Elle disait qu'elle avait peur de se faire violer sur le bateau. Puis toutes ses amies sont comme unanimes. Ils disent « Oui, Rebecca nous a déjà dit qu'elle avait peur de subir un viol. » Donc c'est une remarque assez violente, si vous voulez mon avis. Tu sais, tu travailles sur le bateau de Disney qui est supposément l'endroit le plus sécuritaire au monde et t'as peur de te faire violer. Tu sais, ça doit être vrai, là. Tu sais, pour dire ces choses-là, il devait vraiment avoir un danger et c'est pas inventé ces faits-là. Et là, ça amène une nouvelle hypothèse que peut-être que le jour de sa disparition, Rebecca aurait subi un viol. Ça expliquerait énormément de choses, soit ses vêtements trop grands, son short déchiré, son sentiment de détresse. Tu sais, si elle s'est fait violer, elle a réussi à s'enfuir, elle a mis des vêtements, genre les premiers vêtements qu'elle a vus. Et là, peut-être que justement, en détresse psychologique, elle se soit en effet suicidée. Mais peut-être aussi que son violeur, si c'est ça qui s'est passé, l'aurait jeté par-dessus bord, peut-être qu'il l'a tué, peut-être. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est fou, là. Mais c'est pour ça que cette histoire a tellement de mystère derrière ça. Et ça, c'est une thèse assez plausible parce que ça expliquerait les changements de mots de passe, l'utilisation de sa carte de crédit. Peut-être justement ce que sur Facebook, Rebecca s'était confiée par rapport à sa peur de se faire violer. Et la personne responsable serait allée sur son Facebook justement pour tout effacer. Et en fait, la grosse théorie du complot là-dedans, c'est que Disney serait peut-être au courant de ce qui est réellement arrivé et ils veulent cacher ces faits, ils veulent camoufler le tout. C'est plus une théorie de cover-up, ce qui serait assez logique parce que Disney, c'est une énorme compagnie. Est-ce qu'ils veulent vraiment savoir qu'il y a des jeunes employés qui font des trips à trois sur leur bateau, qui prennent la drogue, qui font des fêtes, ou que l'une des employées se soit fait violer, ou peut-être qu'elle était dépressive, suicidaire, et Disney la laissait travailler avec des enfants. Donc, dans toutes les hypothèses sur ce qui aurait pu arriver à Rebecca, Disney paraît vraiment mal dans ces hypothèses. Donc, pour eux, c'est tellement plus facile de dire « c'est une vague qu'a apporté Rebecca, c'est hors de notre pouvoir, c'est la nature, ça peut arriver ». Voilà. C'est assez difficile de savoir la bonne réponse. Mais en fait, sur les Disney Cruise Line, sur les bateaux de croisière de Disney, Rebecca, c'est la seule personne a disparu. Il n'y a aucun touriste, aucun employé qui ont disparu avant ça. Puis c'est comme la fierté de Disney de ne jamais avoir perdu aucun client en mer. Et en fait, Disney, c'est l'une des rares compagnies à avoir un système de détection man overboard sur les bateaux de croisière. Donc des systèmes, je vais vous lire, des systèmes informatiques qui détectent instantanément toute chute de corps le long de la coque d'un navire. Donc en cas d'accident, l'équipage serait comme automatiquement prévenu. Donc si Rebecca était tombée, ben il l'aurait su automatiquement. Fait que pourquoi il n'y a rien qui a été fait? Ce système de man overboard, c'est Disney qui l'a, mais c'est pas tous les bateaux de croisière. En fait, j'ai des chiffres pour vous. Plus de 300 personnes sont passées par-dessus bord depuis l'an 2000, soit une moyenne de 19 passagers portés disparus en mer à chaque année. Donc lorsque quelqu'un tombe d'un paquebot ou juste un traversier, un ferry, ses chances de survie sont très minces. Les études montrent qu'ils périssent dans 85 à 90% des cas. Visiblement, Disney est très, très, très sécuritaire dans le domaine des bateaux de croisière maritimes. Fait que pourquoi Rebecca aurait été l'exception à la règle? Moi, je pense qu'ils ont vraiment quelque chose à cacher et c'est pourquoi ils ont donné énormément d'argent à la famille de Rebecca pour les faire taire. Mais ça n'a pas fonctionné parce que le site de Rebecca Coriam est toujours très actif et ils sont toujours à la recherche d'une réponse. Donc maintenant, je vais aller retrouver Lionel pour qu'on continue la discussion sur cette affaire mystérieuse.
Eh bien, merci Victoria pour toutes ces informations. Tu as dit l'essentiel à savoir. Je vais maintenant apporter des analyses supplémentaires. Donc comme les spectateurs l'ont compris, c'est vrai que c'est une affaire qui est très compliquée, très mystérieuse. À l'heure actuelle, il est impossible de trancher. C'est une affaire qui est très nébuleuse, très complexe. Comme je l'ai déjà dit, de toute façon, les disparitions en mer à bord de paquebots, ce sont les pires qui puissent arriver parce que déjà, ce sont des lieux en mouvement. Donc si on ne sait pas quand vous avez disparu, on ne sait pas où vous cherchez, tout simplement. Et ce sont des affaires qui sont des véritables casse-têtes juridiques aussi. Rendez-vous compte, Rebecca était de nationalité britannique. Elle a disparu dans les eaux internationales, quelque part entre les États-Unis et le Mexique. Le Disney Wonder, ce paquebot, il est basé à Los Angeles. Le siège de la compagnie Disney Cruise Line est situé en Grande-Bretagne. Pour couronner le tout, le policier en charge de l'enquête était de la police royale des Bahamas. Donc voilà, l'affaire était déjà très compliquée dès le départ. On ne savait pas trop qui devait faire quoi. Et quand il y a beaucoup d'acteurs comme ça, en général, on ne sait plus trop qui est responsable. Voilà. Donc on va maintenant étudier la piste criminelle. Est-ce que Rebecca Coriam a été victime d'un crime? C'est possible. Comme l'a dit Victoria, Rebecca était au centre d'un triangle amoureux. Mais bon, attention, si Rebecca a été victime d'un viol et ou d'un crime, le coupable peut être n'importe qui. Hein. Il y avait 2500 passagers et 1000 membres d'équipage au moment de sa disparition. Ça fait donc 3500 suspects. Enfin, 3499, voilà. Le souci, c'est que l'enquête relative à la disparition de Rebecca Coriam a été déplorable. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est Stephen Mosley, un homme politique de haut rang, l'ancien député de Chester, qui a fait cette déclaration devant la Chambre des communes en novembre 2001. L'autre gros problème, c'est que dans les eaux internationales, en haute mer, aucune loi ne s'applique. On est sous la juridiction légale d'aucun État, d'aucun pays, et donc dans un immense vide juridique. Ça veut donc presque dire en gros que si un crime est commis sur un paquebot en pleine mer, eh ben, le meurtrier a de bonnes chances de s'en tirer. Hein. Donc c'est énormément choquant, mais bon... C'est comme ça, malheureusement. Moi, j'ai envie de dire, quand est-ce que ça va changer? Mais bon, le problème, voilà, ce sont des règles de droit international. Voilà. Il y a aussi une autre chose que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il n'y a aucun service de police à bord des paquebots. Des gros paquebots de croisière, comme ça. Hein. Il y a une équipe de sécurité, en général, mais bon, voilà. Sachant que certains bateaux de croisière peuvent transporter plus de 6000 passagers avec 2000 membres d'équipage, ce sont donc de véritables petites villes flottantes. Donc où il y a 8000 personnes, où l'alcool coule à flot souvent. Et donc c'est un peu comme si vous étiez pendant une semaine dans une station balnéaire de 8000 habitants, en plein été, et sans policiers. Voilà, donc vous imaginez très bien que ça peut dégénérer. Donc je reviens au cas qui nous préoccupe. On vient de voir la piste criminelle, on va maintenant voir la piste du suicide ou de l'accident. Il faut quand même bien considérer ses possibilités, hein, parce que je vais revenir sur un détail important qui avait été donné par le journaliste du Guardian, John Ronson, qui était enquêté à bord du Disney Wonder en octobre 2011. Il avait fait sa propre enquête, il avait interrogé plusieurs membres d'équipage et beaucoup lui avaient dit que tout le monde sait que Rebecca est tombée ou a sauté du pont 5 côté tribord, près de la piscine du personnel. Comme vous l'a dit Victoria tout à l'heure, Disney avait demandé à ses employés de ne rien dire sur la disparition de Rebecca. Il leur avait dit de répondre « je ne sais pas, je ne sais rien », bref. Donc là, quand même, en off, beaucoup d'employés ont dit qu'elle était effectivement tombée ou qu'elle avait sauté du bateau. Donc il faut quand même tenir compte de cette théorie, hein. Ça donne du crédit à cette théorie quand même, hein. Parce que là, apparemment, tout le monde parle d'une chute. Quand même. Si elle a chuté du bateau, si elle a tombé du bateau, il y a trois possibilités. Première possibilité, elle a sauté volontairement. Donc, elle aurait commis un suicide, comme le laisse entendre son ex-amante, Tracy. Deuxième possibilité, Rebecca est tombée accidentellement cette fois. Et c'est possible aussi quand même, hein, parce que Melissa, l'une des membres d'équipage, qui avait été interrogée par le journaliste du Guardian et qui connaissait Rebecca, a raconté qu'elle adorait cet endroit, elle y passait beaucoup de temps près de cette piscine. Et quand on réfléchit, c'est vrai que ça peut faire du sens, parce qu'on se rappelle qu'elle était bouleversée sur les images de vidéo avant de disparaître. Et peut-être que tôt le matin de sa disparition, le mardi 22 mars 2011, après avoir été filmée en gros, peut-être que Rebecca avait besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ses idées. Et elle a pu aller effectivement près de cette piscine pour réfléchir. Et un autre détail qui est intéressant, c'est que Melissa a dit que Rebecca était un peu casse-cou. Donc, elle était très sportive, rappelez-vous, hein. Donc, il n'est pas impossible que Rebecca ait pu grimper sur le muret d'acier qui entoure la piscine, qu'elle ait pu s'asseoir, là, pour réfléchir, pour respirer l'air de la mer, pour retrouver son calme. Et elle a pu faire une chute, elle a pu perdre l'équilibre quand même et tomber, hein. C'est pas impossible. Il n'y avait pas forcément besoin d'une vague scélérate pour que Rebecca perde l'équilibre et tombe à la mer. Voilà, donc ça c'était la deuxième possibilité. Troisième possibilité, on l'a poussée. Voilà, là il s'agit d'un crime, encore une fois. Et c'est possible aussi. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de témoin, si vous êtes dans un angle mort, si l'endroit n'est pas filmé par une caméra, on peut très bien vous faire passer par-dessus bord. Surtout la nuit, quand il y a très peu de monde sur le pont. Et puis il y a aussi une autre personne de valeur, hein, qui a fait une déclaration importante. Hein. Chris Matheson, le député de Chester, a fait des déclarations fracassantes dans le Liverpool Echo en juillet 2019. Il a dit « Je n'ai pas confiance dans la police royale des Bahamas », voilà, notamment. Et il a dit aussi que sa théorie est que quelque chose est arrivé et que Rebecca a été poussée par-dessus bord ou forcée à sauter parce qu'elle n'était pas consentante. Voilà. Donc, cet homme politique de haut rang a laissé entendre qu'effectivement, Rebecca aurait pu être poussée. Voilà. Donc, effectivement, hein, elle a très bien pu être poussée ou tombée à l'eau sans que personne ne la voie en pleine nuit parce qu'il y avait peu de monde sur les ponts. Elle a pu échapper aux caméras parce que certaines, des fois, sont désactivées aussi ou sont en panne. Et puis aussi des angles morts, voilà. Et il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est que le système de détection informatisé MOB, Man Overboard, n'avait pas encore été installé en 2011. Victoria vous a parlé de ces systèmes, hein. C'est vrai que Disney est une des rares compagnies à avoir équipé ses paquebots de croisière avec ses équipements qui permettent de sauver des vies, mais elle l'a fait plus tard, hein, à partir de 2016-2017. Donc, il n'y avait pas ce genre de système au moment de la disparition de Rebecca. Donc, elle a très bien pu tomber à l'eau sans qu'on le sache. Voilà. Donc, moi, de mon point de vue, on ne peut éliminer vraiment aucune de ces trois théories. C'est ça le problème. On ne peut pas trancher. C'est vrai que si Rebecca est tombée à l'eau en pleine nuit, au moment de sa disparition, elle était foutue, il faut dire les choses, hein, parce qu'elle était très loin des côtes. Vous tombez à l'eau comme ça, vous nagez vers les côtes. Il faut aussi pouvoir vous orienter, hein, c'est ça. Hein, faut pouvoir nager en direction des côtes. Hein. Je sais pas si on voyait pas les côtes à l'horizon, on voyait certainement pas les lumières non plus. Les statistiques montrent que 19 passagers ou membres d'équipage disparaissent chaque année à bord de paquebots, de ferries. Ça fait quand même 1,5 personnes par mois. Et lorsqu'une personne tombe à l'eau, voilà, elle meurt dans 90% des cas. Voilà, donc moi j'en profite pour faire un peu de pédagogie. Je pense que laisser faire passer un message. À l'heure actuelle, il n'y a que 10% des compagnies de croisière qui ont installé ces systèmes informatisés MOBI. Et il faudrait imposer que toutes les compagnies de croisière au monde installent ces systèmes. Ces systèmes qui permettent de détecter instantanément quand quelqu'un tombe à l'eau. Et ça permet de déclencher les secours. Voilà, donc l'administration américaine d'ailleurs recommande à toutes les compagnies de le faire, mais ça n'est pas obligatoire. C'est un coût, d'accord, mais bon, je pense que les compagnies de croisière ont beaucoup d'argent. Enfin, un peu moins maintenant en ce moment à cause du coronavirus, malheureusement. Mais bon, ça serait un bon investissement et puis ça sauverait des vies et ça sécuriserait les gens, ça les rassurerait aussi. Les gens leur en seraient reconnaissants. Voilà. C'est pourquoi, et j'en termine avec ça, moi, j'ai la conviction que malheureusement, Rebecca Coriam est décédée à l'heure actuelle. Dans quelles conditions? Il est impossible de le dire en l'état actuel de nos connaissances. Je suis vraiment partagé, mais bon, je dirais à la louche, et c'est vraiment totalement subjectif, voilà, je vais vous donner les pourcentages. Suicide, 45% de chance. Le crime, 45% également, et l'accident, 10%. Voilà, ce sont les probabilités, selon moi, de ce qui est arrivé à Rebecca. Voilà, dans tous les cas, je paie à son âme, parce qu'encore une fois, je pense qu'elle n'est plus de ce monde. Voilà, elle a pu donner de ses nouvelles, on ne l'a revue nulle part, enfin, les témoignages étaient des erreurs, voilà, et donc, je souhaite beaucoup de courage à sa famille, j'espère qu'elle obtiendra un jour toute la vérité sur ce drame. Voilà, c'est terminé. Donc, je tiens à te remercier encore, Victoria, merci pour cette collaboration, merci aux spectateurs. Bon, on espère que ça vous a plu, voilà. Et portez-vous bien. Peace.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.